Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Midal pour parler de la méditation. Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Nous vous avions reçu ici avec plaisir pour parler notamment de Risquer la liberté au seuil et de Si de l'amour on ne savait rien, publié chez Albin Michel. Et aujourd'hui, nous vous recevons parce que vous enseignez également la méditation depuis plus de 15 ans. Vous avez fondé l'École occidentale de méditation et vous venez de sortir un coffret chez Audiolib de 12 méditations guidées. Alors, ma première question sera évidemment de, avant qu'on parle de la méditation sous divers aspects, de nous expliquer ce que contient ce coffret et comment vous l'avez réalisé.
Ben, j'ai écrit, comme vous avez dit, une vingtaine d'ouvrages qui ont un peu le foyer, c'est la méditation, c'est ça qui est un peu le fil conducteur de toute ma vie. Et je n'avais jamais écrit un livre sur la méditation, je ne voyais pas comment on pouvait écrire sur quelque chose qui est une expérience, mais je ne voyais pas non plus comment essayer de faire un CD sur la méditation. Quand Audiolib m'ont contacté, ils ont accepté, ce qui n'était pas du tout évident à première vue, de ne pas enregistrer une méditation qui serait lue par un comédien ou lue par moi, mais je pratiquerais la méditation dans un studio, parce qu'il faut être dans un studio pour que le son soit vraiment juste, et que j'improviserais une instruction de méditation. Alors, j'avais fait évidemment une structure de 12 méditations guidées. On part du début et y a une sorte d'avancée, de progression. Et on va jusqu'à la pratique de l'amour et de la bienveillance du cœur ouvert, en commençant par la pratique simple de la pleine conscience. Et c'était, est-ce que je trouvais, ce qui m'a, j'ai trouvé au fond comment répondre à quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, pouvoir transmettre la méditation en ayant quelque chose qui soit vraiment utile pour les gens. Ils ont au fond un enseignant de méditation qui vient chez eux.
Voilà, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans une optique complètement laïque, il n'y a pas une dimension religieuse qui est présente dans cet enseignement.
Ça, c'était, au fond, c'est le grand engagement depuis le début que j'avais, que la plus grande profondeur spirituelle est souvent oblitérée par l'aspect religieux, que la méditation, bien sûr, vient de la tradition bouddhique, mais ce qui est intéressant dans la tradition bouddhique, c'est la méditation, et non pas des aspects religieux qui, en plus, sont venus assez tardivement se greffer dessus, ni surtout des aspects exotiques, parce qu'aujourd'hui, souvent, on croit que la méditation, c'est, par exemple, pratiquer zazen en portant une robe japonaise, mais c'est pas
oui,
parce que...
Oui, ou vous-même, vous avez été disciple de maîtres tibétains comme Shogen Trungpa, et donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent avec de l'encens, avec des bougies, des rituels, des clochettes, etc. Donc là, tout cet aspect-là est mis de côté.
Tout à fait.
Vous gardez, finalement, la quintessence de l'enseignement pour montrer comment... Alors, quel est le but de la méditation?
Je crois que vous avez dit le point central, c'est... Essayer de toucher la quintessence, non pas vulgariser la méditation en perdant sa dimension la plus profonde, mais au contraire, ne pas se perdre dans les côtés externes. Alors, quant à la question du but, c'est un des grands défis à essayer de le dire, parce qu'en un sens, il n'y a pas de but. Alors moi, ce que j'aime le dire, c'est, après on va nuancer au cours de l'émission, mais je crois que c'est important de dire, moi, la méditation a changé ma vie et le cœur de mon existence parce qu'elle me délivre de la tyrannie des buts. Il faut toujours être efficace, il y a toujours un ensemble de buts. Et la méditation, c'est enfin avoir le droit d'être tel quel, comme nous sommes. C'est un renversement par rapport à la logique de l'efficacité à tout prix. C'est une dimension vraie, en un sens, de gratuité, d'inutilité. Et souvent, comme au fond, aimer quelqu'un, ça ne sert à rien. Et la méditation, c'est peut-être... La grande chance de la méditation, c'est offrir en Occident un espace qui ne sert à rien.
Alors ça ne sert peut-être à rien, il n'y a peut-être pas de but à rechercher, mais ça a des effets.
Absolument. Donc c'est ça qu'il faut nuancer. En même temps qu'il y a cet aspect qui n'a pas d'efficacité immédiate mesurable, même si encore on va nuancer, du coup, ça vous délivre, ça vous libère, ça vous met en rapport à votre existence. Il y a un sens, on pourrait dire, nous vivons tous... mais rarement nous sommes en rapport pleinement à notre existence. Et la méditation, c'est toucher le sens le plus profond de son existence. C'est pouvoir entrer en rapport à ce que nous sommes. Et donc, d'une certaine manière, de toucher un sens de paix, de faire la paix. Donc, alors, évidemment, on voit bien l'efficacité.
Oui, quand... les conséquences de
voilà.
ça.
Voilà, c'est les conséquences. Donc, du coup, quand vous êtes stressé, ça peut avoir des conséquences de pratiquer la méditation. On parlera des effets même qu'on peut mesurer aujourd'hui scientifiquement de l'effet de la méditation. Mais je crois quand même important d'avoir comme prise de vue, la méditation est du côté d'un poème, est du côté de l'amour, est du côté de cette gratuité qui vous libère au fond de l'inquiétude, est-ce que je suis assez efficace ? Et aujourd'hui, où cette dimension d'efficacité prend le pas partout, où on voit que l'OMS dit qu'en 2020, la deuxième cause qui empêchera les Occidentaux de travailler après les maladies cardiovasculaires sera la dépression, que la méditation a un rôle à jouer considérable pour aider les êtres humains à avoir rapport à leur propre existence, à leur propre expérience. Benjamin disait que le signe le plus frappant de la civilisation occidentale, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, dans sa violence, les êtres humains n'arrivent plus à avoir de rapport à leur propre expérience. Tout est médiatisé. Rien n'est direct. La méditation a un rôle, voyez, presque social aujourd'hui, spirituel et social, d'aider les êtres humains à entrer en rapport à leur propre expérience. Et de ce point de vue-là, de trouver l'espace de leur propre liberté, de leur propre capacité de penser.
Oui, de se reconnecter avec eux-mêmes, dans l'intériorité, dans leur corps, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont coupés de leurs sensations, de leurs émotions, de leur corps, ou ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc le point de départ de la méditation, c'est peut-être ce mouvement d'intériorité, dans lequel on cherche à revenir dans un espace intérieur, où à la fois on cherche à redécouvrir cette intériorité profonde, et en même temps se connecter à ce qu'il y a de plus simple, mais qu'on sait peut-être plus toujours faire en Occident, qui est l'attention à sa respiration, à ses sensations.
Avec ce paradoxe, c'est que quand vous entrez en rapport à votre intériorité, vous êtes plus ouvert au monde et plus en relation aux autres. L'Occident a du mal à penser ça. Soit on pense en termes d'intériorité, soit on pense... Et la méditation vous montre que en étant plus en rapport à vous-même, vous êtes plus en rapport au monde. Et vous soulignez de manière décisive la question du corps. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, avoir rapport à leur corps, c'est vite des choses très fortes. Par exemple, faire du sport jusqu'à l'épuisement.
Oui, et donc, souvent, les gens... des émotions fortes, voilà. Une intensité, de sensations.
Comme les gens sentent qu'ils existent, ils vont du saut à l'élastique et ils ont du mal à voir qu'on peut avoir une expérience très simple de la pluie, de marcher, d'être avec quelqu'un. Et sur le corps, souvent, les gens sont déconcertés parce que dans la méditation, il y a une forme d'immobilité, ils ont l'impression que c'est un exercice complètement mental. Non, c'est une question de posture qui nous libère de l'imposture, qui nous donne qui nous incarne corporellement, mais qui est dans une certaine subtilité et qui est, à mon avis, je crois que c'est ça qui est le plus crucial aujourd'hui à redécouvrir, qu'on peut se sentir vivant sans aller sans se pousser à l'extrême.
Alors justement, je voulais qu'on reparle de cette question et qu'on aborde cette question de la technique, puisque vous nous dites, voilà, il y a une posture. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce que c'est que la technique corporelle de la méditation ?
Le point central, c'est de s'asseoir en étant vraiment posé sur la terre. J'aime toujours rappeler que le Bouddha... quand il a dû à un moment, on lui a demandé, mais quel est le signe de ce que tu fais ? Il a touché la terre comme son témoin, et non pas à montrer un dieu ou quelqu'un qui soit garant, mais c'est la terre. Et d'abord, vous êtes assis sur la terre et vous avez le dos droit. Et je crois que c'est un peu le dos droit, la tête en rapport au ciel,
donc
le corps posé sur la terre.
Une certaine verticalité de la colonne. Et en même temps, donc c'est, j'imagine, le dos droit, etc. C'est pour que la respiration soit ample et dégagée.
C'est aussi parce que quand vous êtes droit, vous touchez un sens de présence et de dignité. Vous vous excusez pas d'être. Si vous asseyez sur un sofa, les pieds sur la table,
un peu
vautré. Vous n'avez pas la même qualité de présence que si vous avez le dos droit. Donc au-delà même de la respiration, il y a une qualité de présence.
C'est vrai qu'on voit ça dans toutes les... Alors là, je reviens un peu à la religion, mais on voit ça dans toutes les religions. Lorsqu'on est dans un lieu sacré compris, on est toujours droit, effectivement. Oui. On n'est pas vautré, voûté. Il y a toujours cette idée de la tenue, finalement.
Oui, de la tenue. Ouais. C'est très important, de la tenue, de la dignité. Moi, je crois aussi...
ça donne une présence...
Que c'est crucial, cette question de la dignité. Vous pratiquez, Et malheureusement, souvent, l'image que les gens ont de la méditation, qu'on voit à la plupart des photos, il y a un côté un peu new age, cool, baba cool, voilà. Mmh. Alors, c'est pas, je ne crois pas que ce soit ça du tout. On peut pratiquer comme on est. Et Nietzsche disait que le signe marquant de notre temps, c'est le manque de dignité que les Occidentaux ont envers eux-mêmes. Et je crois que la méditation, c'est vous faire toucher ce sens de dignité. Un autre élément corporel, c'est que si votre dos est droit et ferme, votre cœur est ouvert. Et vous avez, et dans la méditation, on joint la solidité, le courage, la force, la détermination et la tendresse, la vulnérabilité dans un sens tout à fait positif, qui fait que vous êtes ouvert à ce qui vient. Vous vous enfermez pas dans un cocon. Des fois, les gens ont aussi l'idée que la méditation, on fait le vide dans sa tête et on rentre en soi. La méditation, c'est pas du tout faire le vide dans sa tête. C'est être de plus en plus ouvert à tout ce qui est, de plus en plus disponible
oui,
à tout ce qui surgit.
Oui, ce qu'on ressent quand on a effectivement le fait d'avoir le dos droit, ça permet de bien dégager les poumons, d'être donc ouvert, la cage thoracique est ouverte.
Oui, et vous sentez votre cœur. Oui. C'est important. Vous êtes, la méditation n'est pas rentrer dans un terrier. Pour prendre la nouvelle de Kafka, c'est pas rentrer dans son terrier, c'est vraiment s'exposer au monde le plus entièrement, se dénuder devant le monde.
Alors, pour être aussi très concret, beaucoup de gens disent oui, mais c'est difficile d'être assis parce qu'on a mal aux jambes, etc. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de faire la position du lotus, qui est un peu difficile, ou est-ce qu'il suffit de. Est-ce qu'on peut être assis sur une chaise, tout simplement?
Absolument. Dans l'école occidentale de méditation où j'enseigne la méditation, on a des coussins qui sont. Carrés qui font que vous êtes juste posé, ça ne demande aucun effort physique et une grande partie des gens pratiquent sur une chaise, ça ne pose aucun problème. Nous n'avons pas la morphologie des Japonais et je ne vois pas trop l'intérêt de pratiquer avec la posture du lotus et d'avoir mal. Je crois que c'est important juste de découvrir comment notre corps est notre esprit, comment la posture influe sur notre esprit.
Alors une fois qu'on est dans cette posture, qui donc doit être correcte, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Après, vous essayez de garder le sens de présence, et pour garder le sens de présence, on peut s'appuyer sur la respiration qui est comme une ancre, comme un point de repère qui vous aide à développer un sens de présence plus grande. Et la respiration a plein d'atouts, dont un des atouts, c'est qu'elle bouge. Elle est tout le temps en mouvement. Donc on comprend bien que la méditation, c'est pas se fixer dans un état de calme, par exemple, qu'on a souvent qui est l'idée la plus répandue et la plus trompeuse, que la méditation, ce serait faire le vide, ce serait dans un état de calme. Non, parce que la respiration vient et va. Vous pouvez pas la saisir. Donc vous êtes attentif au mouvement même. Et ça, c'est, je crois que c'est une des grandes... Vous apprenez à être présent sans pouvoir saisir la présence. Et c'est ça la méditation. Et malheureusement, vous voyez, en Occident, on est souvent en train de présenter la méditation comme un nouvel outil pour être plus présent. Mais si on fait ça, tout est perdu. Parce qu'on veut saisir la présence. Et la respiration, elle, comme elle vient et elle va, vous apprend à apprivoiser un mouvement. Et peu importe comment vous respirez, il n'y a pas un exercice de respiration particulier. Juste, c'est un point de repère. Et puis après, vous avez des pensées qui viennent et qui vont. Et vous les regardez. Et là, vous apprenez à ne pas vous identifier immédiatement aux pensées et à apprendre quand les pensées sont dans le présent et quand des pensées n'ont plus aucun rapport au présent. Et donc, vous apprenez doucement à vous libérer de tous ces mécanismes habituels de pensée, de peur, de confusion que nous avons, qui nous séparent de ce que nous sommes.
Oui, c'est donc ne pas s'embarquer dans les pensées, ne pas les suivre, mais les observer, les
Absolument.
Laisser passer.
Absolument.
Et donc les pensées passent comme ça, on reste concentré, attentif du moins à sa respiration, ce qui permet de donner cet ancrage permanent corporel. Et puis qu'est-ce qui se passe une fois qu'on progresse dans la méditation et que les pensées passent? Est-ce qu'il y a après des exercices qui permettent de... Est-ce que vous faites plutôt une méditation sans objet, donc en laissant simplement cet état de, je dirais, naturel de l'esprit et du corps, ou est-ce que il y a des objectifs particuliers, exercices particuliers qui peuvent être faits, visualisation
non,
ou autre?
Je pense que c'est tout. En un sens, ça c'est la base. Les exercices de visualisation qui apparaissent à un moment dans la doctrine du bouddhisme particulièrement tibétain sont plutôt des moyens habiles pour aider à préciser certains points de la méditation. Mais la base, et à la fois le point le plus ultime, c'est juste ça. Vous restez dans cette ouverture naturelle, dans cette manière de ne rien saisir. Et l'idée n'est pas d'arriver quelque part. Elle n'est pas, par exemple, d'arriver à ne plus... Enfin, si je pratique longtemps, je vais réussir à plus avoir de pensée. Non. Moi, je dis toujours... Et alors, si vous réussissez à pratiquer, vous faites le vide dans votre être, vous sortez dehors, vous avez les problèmes avec votre boulot, les problèmes avec les gens, ça va vous sembler comme une manière de vous défier, et vous allez créer une tension entre ma méditation où je suis calme et la vie où je suis, où il y a des obstacles. Alors, je crois que c'est important que dans la méditation, il y ait des obstacles. Dans la méditation, vous avez des irritations, vous êtes passionné, en colère, perdu, et vous travaillez avec ça. Donc, la méditation est plus un laboratoire. Francisco Varela, qui était ce
neurobiologiste
qui m'a appris la méditation, c'est avec lui que je l'ai appris, aimait beaucoup dire, la méditation, c'est comme prendre un microscope et regarder ce qui se passe. C'est juste un microscope gentil. Et c'est vrai, c'est plutôt un laboratoire pour travailler avec ses émotions, ses peurs et ce qui nous arrive, que d'essayer d'atteindre un état dans lequel on risque juste de se fixer sur cet état. Et dans les textes bouddhiques un peu pointus, on dit toujours que se fixer sur l'ouverture, voire même sur la vacuité, c'est le pire obstacle qui peut se passer. Et je crois que quand on voit ça, la méditation est à la fois plus humaine, on peut à la fois et plus profonde, et elle peut en plus beaucoup plus répondre aux vrais défis que nous rencontrons tous aujourd'hui.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Fabrice Minal. Nous parlons de la méditation sur ces quelques très belles notes de Keith Jarrett qui joue Gurdjieff. Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous vouliez revenir sur quelques points qui ont été abordés par notre invité.
Oui, absolument. Le premier point sur lequel on est peut-être passé un petit peu rapidement, c'est la question de savoir si la méditation est une entreprise donc vers soi, donc quelque part un peu égotique, ou si, comme vous le dites, ça permet de s'ouvrir aux autres. C'est-à-dire, ce que je n'arrive pas bien à comprendre, c'est cette articulation qui semble évidente pour ceux qui pratiquent et enseignent la méditation, en disant oui, en fait, la méditation, c'est fait pour mieux s'ouvrir au monde et aux autres. Mais comment se fait-il qu'une pratique à ce point centrée sur le souffle, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'intériorité, sur leur rapport d'évidence entre moi et mon corps, si j'ose dire, comment cette pratique-là, qui est quand même très centrée sur moi, peut mener à cette ouverture aux autres.
C'est formidable, vous posez la question décisive qui montre la grande difficulté qu'on a en Occident de comprendre la méditation. Et je crois qu'on ne comprend rien à la méditation tant qu'on pense que ça a rapport à moi. La méditation, c'est la découverte du fait que c'est la libération de la tyrannie du moi. C'est ça même pourquoi moi j'ai pratiqué, c'est vous découvrez déjà autre à vous-même. Là, vous n'êtes pas en rapport à votre respiration, vous êtes en rapport à la respiration. Vous sentez que ça respire. Vous n'êtes pas en rapport à mon corps, vous êtes en rapport au corps. Et vous découvrez que la crispation que nous avons sur moi, comme moi, moi-même et encore moi, au fond, c'est ça qui nous emprisonne la vie. Et en Occident, c'est très peu audible parce que on a de plus en plus fondé tout sur le moi. Alors peut-être il y a quelques discours à part, comme la psychanalyse qui a essayé, on connaît tous l'engagement de Lacan contre la psychologie du moi. Et je crois que la méditation, c'est d'abord ça. C'est d'abord la libération que c'est pas en moi-même que je vais trouver la moindre réponse. qu'en moi-même, c'est comme un marais dans lequel je vais m'enfoncer. Et pratiquer, c'est découvrir déjà qu'on est autre à soi-même, qu'on est chaque fois autre. Alors, quand on vit avec quelqu'un, ça semble évident, la personne avec qui on vit, on n'en a jamais fait le tour. Elle est toujours autre que ce qu'on pensait. Même si vous vivez, comme c'est mon cas, depuis plus de 20 ans avec quelqu'un, vous la voyez, elle ne cesse de vous étonner. Mais au fond, nous-mêmes, on ne cesse de s'étonner et de voir qu'on est autrement que ce que nous pensions que nous étions. Et cette découverte de l'altérité en soi, c'est déjà l'ouverture à l'altérité aux autres. Nous ne sommes pas une identité fixe sur nous-mêmes. La méditation, c'est d'abord cette libération du moi-même. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est tellement précieux aujourd'hui.
Donc, en un sens, c'est pour ça qu'on peut dire que la méditation est une pratique spirituelle.
C'est pour ça, absolument. Je réfléchissais en venant dans votre émission. Je me disais, je viens dans une émission qui s'appelle Les Racines du Ciel. Et je parle de la méditation. Et là, au fond, c'est l'espace où on peut encore peut-être entendre ce que c'est la méditation. Je suis embêté, moi, de voir la méditation qui est de plus en plus ramenée à juste un outil thérapeutique pour que le moi, moi-même et encore moi, soit moins stressé. Mais Les Racines du Ciel, je réfléchissais, on ne peut pas imaginer mieux titre pour dire ce que c'est la spiritualité. C'est l'ouverture du ciel qui a des racines, alors que ça semble contradictoire. Et le ciel, c'est cette ouverture auquel vous met en rapport la méditation, et justement, qui a des racines, et qui vous ancre, et qui ne vous fait pas partir dans un ailleurs, qui vous fait pas rêver. Et je crois que, oui, la méditation, c'est la vérité spirituelle, si on réussit à entendre la spiritualité comme non pas une manière de rêver les yeux ouverts, pour fuir la réalité, mais comme la manière de prendre en vue qu'il y a une ouverture inhérente à l'existence et que la vraie raison pourquoi les êtres humains sont malheureux, c'est d'abord parce qu'ils oublient cette dimension. On croit souvent qu'on est malheureux parce qu'on aurait des problèmes psychologiques, parce qu'on n'aurait pas obtenu ce que je voudrais. Mais en fait, je crois qu'on est d'abord malheureux parce qu'on est coupé de l'espace, coupé du ciel, coupé de l'amour, coupé de cette vie qui existe de par elle-même. Et de ce point de vue-là, la spiritualité, c'est le plus simple. Aujourd'hui, on a l'impression que spiritualité, ça veut dire « Oh là là, c'est un truc... » C'est le plus simple. C'est beaucoup plus simple que le reste. C'est découvrir justement qu'on n'a pas besoin de tout dominer. Or, on n'y arrive pas à tout dominer. Personne ne réussit à tout dominer. La maladie, la mort, les surprises... sans arrêt, quelque chose vient nous réveiller. Et la spiritualité, c'est cette ouverture à cela.
D'ailleurs, ce que vous expliquez là, c'est très important, parce que ça redonne un peu le fondement originel de la méditation dans le bouddhisme, qui est d'atteindre l'éveil, la libération.
Absolument.
Et la libération, c'est quoi ? C'est se libérer du moi, c'est se libérer de l'ego, c'est se libérer de cet enfermement dans ce moi psychologique, à travers la découverte du soi ou de quelque chose de beaucoup plus radical et profond en nous, qui, lorsqu'on le découvre, et on le découvre à travers l'expérience de la méditation, qui est une technique qui nous permet d'accéder à l'esprit dans toute sa pureté, je dirais, au-delà de toute son conditionnement psychologique auquel on s'identifie. Et lorsqu'on découvre cette profondeur, on se libère à ce moment-là, comme vous le disiez très justement, de la tyrannie du moi, et on atteint un état de compassion, d'ouverture du cœur, etc. Donc finalement, la méditation a quand même cet objectif ultime.
Absolument.
qui est l'éveil, la libération.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Quelqu'un comme Shogam Trungpa disait le chemin est le but, parce que c'est le chemin lui-même qui est le but. Parce que personne, à l'instant où vous avez un but, ça va faire qu'enrichir le moi. Ça va faire, moi j'ai réussi ça. Non, donc c'est pour ça que c'est aussi bien de laisser tomber. Et comme ça, vous pouvez être complètement détendu et vous n'avez pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir de médaille d'état que vous aurez atteint.
Lélie Anvar.
Oui, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé là d'esprit, d'élévation. Alors qu'on est parti finalement du corps, en disant, d'une certaine façon, on avait l'impression qu'au début, il y avait presque un amalgame entre intériorité et se connecter avec son corps. Mais on voit que se connecter avec son corps, c'est pas juste avec la matière, mais aussi avec...
Avec la présence, comme elle est tangible.
Voilà, et ce que dans les traditions plus religieuses, on appellera l'âme. Et je vous ai apporté justement un texte de Thomas Merton, qui était un moine, donc trappiste, mais qui a beaucoup pratiqué la méditation précisément. Il s'est beaucoup intéressé d'ailleurs aux techniques du zen et du zazen. Et en tout cas, il a écrit plusieurs ouvrages, dont celui dont je vais lire un extrait aujourd'hui, qui s'intitule « Semences de contemplation » justement. Alors, il distingue bien sûr la méditation de la contemplation, mais il parle longuement de la méditation comme ce cheminement qui mène précisément à la contemplation. Et c'est la différence, en fait, avec ce que vous venez de dire. Et peut-être, après la lecture du texte, vous pourrez nous faire un commentaire sur la différence qu'il y a entre cette prière méditative chrétienne, qui quand même relie au divin, dont le but est de relier au divin, et la méditation laïque telle que vous la concevez et vous la pratiquez. Mais le point commun, en tout cas ici, c'est que dans le texte que je vais lire, Thomas Merton explique qu'il faut absolument ne pas avoir de but, y compris pas celui d'arriver à l'extase, ou de voir Dieu, ou d'avoir des émotions spirituelles particulières. Il faut absolument être dans une disponibilité totale. Et surtout, il faut apprendre à méditer en toutes circonstances, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Apprenons à méditer sur le papier. Le dessin et l'écriture sont des formes de méditation. Apprenons à contempler les œuvres d'art, à prier dans les rues ou dans la campagne. Apprenons à méditer non seulement un livre à la main, mais en attendant l'autobus ou en voyageant dans le train. Et surtout, entrons dans la liturgie de l'Église et que le cycle liturgique fasse partie de notre vie, que son rythme pénètre notre âme et notre corps. Si la méditation et la prière mentale ne jouent pas leur rôle véritable dans la vie de tant de personnes qui les pratiquent, c'est que ce rôle n'est pas réellement compris. Certains semblent croire qu'on doit méditer uniquement pour acquérir d'intéressantes idées sur Dieu. Certes, l'un des objets élémentaires de la méditation est de fortifier toutes nos convictions religieuses, de leur donner un fondement plus solide de foi et de compréhension. Mais ce n'est que le commencement, le seuil de la méditation. D'autres pensent que le rôle de la méditation consiste seulement à nous démontrer la nécessité de pratiquer la vertu, à produire en nous le courage, la résolution de nous mettre en œuvre. C'est vrai, c'est un autre résultat élémentaire de la méditation. Mais ce n'est qu'un autre pas sur la voie qui y mène. Une erreur moins grave, c'est de croire que la méditation doit produire en nous un plus grand amour de Dieu. Cette opinion est juste, ou ne l'est pas, selon ce que nous entendons par aimer Dieu. Si nous nous imaginons que la méditation a été profitable lorsqu'elle nous a menés à dire ou à sentir que nous aimons Dieu, nous sommes encore dans l'erreur.
Ce qui est très beau chez Thomas Merton, c'est un moine trappiste qui a vu que quelque chose faisait défaut pour lui, et il est parti d'abord, il est parti au Japon, mais il a beaucoup étudié avec des maîtres tibétains de manière très intense, complètement émerveillé devant la richesse de la pratique de la méditation qui restait, cette tradition contemplative, qui a existé très fortement dans le christianisme. Quand on lit les textes du XVIIe siècle sur l'oraison sans forme, on voit que l'Occident a été marqué par des pratiques de présence nue et ouverte, sans objet, sans saisie et sans but, qui vous mettent en rapport à cette présence, mais ça s'est un peu distendu dans une forme de moralisme qui a peut-être perdu cette ouverture très première et très radicale. Et Thomas Merton a été très frappé par cette découverte-là. Et je crois que dans l'extrême, même s'il vient de la tradition chrétienne, qui n'est pas la mienne, mais on voit bien qu'il essaye de donner droit à cette présence qui ne vise pas à vous améliorer, qui ne vise pas à un résultat immédiat, mais qui vise à une désappropriation, à un désattachement décisif. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une unité de toutes les traditions spirituelles sur ce point. Il y a une unité de la perspective du désattachement qu'on trouve dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Ce qui me touche, moi, dans la pratique de la méditation, comme elle vient de la tradition bouddhique, c'est son extraordinaire simplicité qui ne demande aucun dogme, ni aucun acte de foi. Mais encore une fois, cela me correspond pour moi. Mais j'ai beaucoup de respect pour toutes ces... Chaque fois qu'on met l'accent sur cette présence ouverte
et inconditionnelle. Sinon, un acte de foi dans la pratique elle-même. Oui, c'est pas un acte de foi dans un dieu extérieur, etc. Oui. Mais il faut quand même un minimum de foi, de confiance dans le fait que cette pratique dans laquelle on s'engage va nous être bénéfique ou est utile.
À part que chaque fois que moi, la première fois où j'ai pratiqué, d'un seul coup, j'ai senti un soulagement profond. Puis c'est ce soulagement-là qui me nourrit jour après jour dans ma pratique. C'est d'un seul coup, je peux respirer. C'est d'un seul coup, je sens la possibilité d'être. On est souvent le père, le fils, un écrivain, quelqu'un pris par tous les enjeux du moi social, et vous pratiquez juste être. Et je crois que là, il y a un soulagement qui se fait de manière pleine et entière. Vous n'évacuez pas vos difficultés, vous vous confrontez à des difficultés. C'est, je pratique depuis une vingtaine d'années. il y a des jours, c'est vraiment dur de pratiquer. Mais c'est ça aussi.
Vous pratiquez tous les jours ?
Tous les jours, oui, depuis une vingtaine d'années. Alors,
plutôt le matin, le soir ?
Le matin en me réveillant.
Ça, je crois que c'est assez traditionnel. Hein. C'est presque tous les méditants disent que c'est le matin le moment le plus propice. Et pourquoi ?
On commence la journée en dirigeant son esprit, en se mettant en rapport à l'essentiel. Et alors après, c'est pour des raisons toutes pratiques. Après, on a plein de bonnes excuses pour pas le faire. Donc le matin, je sais que je l'ai fait et ça change le ton de ma journée. Et quand je le fais pas le matin, est-ce que j'ai des rendez-vous, etc. Alors après, je dis ah oui, mais d'abord il faut que je fasse ça. D'après, il faut que je fasse ça. Et parce que ça reste, même après 20 ans, ça reste un défi chaque fois de le faire. Parce que il y a quand même l'expérience que ça va le servir à rien. Et puis vous dites, j'ai tellement de choses importantes à faire.
Pas l'expérience, la croyance que ça va servir à rien.
Oui, et donc...
Parce que l'expérience montre plutôt que c'est utile.
Oui, mais quand même, ça ne sert pas à quelque chose immédiatement. Alors quand si vous répondez à vos mails, si vous lisez tel livre,
on voit le résultat
depuis longtemps.
Suite.
Voilà, donc là, il faut sauter. Il y a un saut dans la méditation. Vous sautez, au fond, dans la possibilité d'une certaine présence, d'un certain silence, d'un certain rayonnement. Et c'est toujours un défi de l'extérieur. Puis quand on est dedans, on dit « Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ?»
J'adhère tout à fait à ce que vous dites, parce que je vis la même expérience. Je pratique aussi depuis 25 ans. Et c'est vrai que je me rends compte, les journées où j'ai médité, les journées où j'ai pas médité, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même parfum.
Non.
La méditation donne un parfum particulier à sa journée, où il y a une espèce d'espace intérieur. On sent qu'on a plus de liberté, qu'on est moins, je dirais, on s'identifie moins à toutes les émotions qui nous arrivent dans la journée, qu'on a tous plus ou moins de tristesse, de colère, de petites choses qui nous agacent. D'un coup, il y a une espèce de recul, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que notre esprit est comme plus libre finalement et moins enfermé dans la psychologie et ses émotions.
Je crois que c'est très juste que vous dites ça change, il y a un autre parfum. Je crois qu'on peut pas mieux dire. Qu'est-ce que c'est la méditation ? C'est il y a un autre parfum un parfum du ciel qui vient infuser toute votre journée. Et vraiment, c'est décisif.
Tout est dans un flux continuel sur la Terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée. Et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a là rien de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe, pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. À peine est-il, dans nos plus vives jouissances, un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « Je voudrais que cet instant durât toujours ». Et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après? Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'engendrer sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans néanmoins marquer sa durée, et sans aucune trace de succession, sans aucun sentiment de privation et de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte, que celui de notre seule existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure en celui qui s'y trouve, peut s'appeler heureux, non d'un bonheur pas imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvée, souvent, à l'île de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires, soit couchée dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assise sur les rives du lac agité, soit ailleurs au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien, sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffirait à lui seul pour rendre cette existence chère et douce à qui serait écarté de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes agités de passions continuelles connaissent peu cet état et ne l'ayant goûté qu'imparfaitement durant peu d'instants, n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme.
Je rappelle que vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Fabrice Midal pour parler de la méditation. Et Lélie Anvar, vous venez de nous lire
un texte de
Jean-Jacques Rousseau.
Absolument, un texte que je trouve magnifique et que je n'ai donc pas pu couper, de Jean-Jacques Rousseau dans Les Rêveries du promeneur solitaire. Et j'ai été frappée en préparant cette émission. En réalité, je cherchais un texte de Pascal, puisque vous avez parlé des philosophes du XVIIe qui avaient cette pratique de la méditation. Et puis je suis tombée sur Rousseau et j'ai été frappée de voir à quel point Rousseau explique ici, finalement, ce que vous venez de nous dire, de ce que c'est que simplement être présent à l'être dans ces moments, alors que lui appelle de rêverie, mais qui sont une description de véritable méditation, si je ne me trompe.
Ce qui est frappant, c'est de voir que voilà, la méditation, ce n'est pas du tout quelque chose d'oriental. Au fond, l'Occident a été marqué par des tas de points de rapport à la méditation. Juste, en Occident, ça a été souvent dans les marges. C'est un texte en marge, de plein de choses, mais on pourrait lire depuis Parménide, de voir toute l'histoire de la philosophie, les points d'ancrage de ce rapport de présence ouverte, décentrée. On voit bien qu'il n'est pas en rapport au moi, il est décentré, pleinement ouvert à l'entièreté du champ du monde. Donc ça, c'est le premier point que je trouve très important. Et je suis content que vous ayez choisi ce texte plutôt qu'un texte oriental attendu pour qu'on comprenne que ce n'est pas un truc exotique. Et puis l'autre chose qu'on peut préciser, la méditation, c'est un exercice qu'on peut faire pour vivre cette expérience-là. Tout le monde ne peut pas vivre forcément cette expérience-là que vit Rousseau. Et la pratique de la méditation, c'est apprivoiser cet espace-là, revenir à cet espace-là et apprendre à voir qu'est-ce qui obstrue cette expérience-là de manière le plus concrètement possible. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai vraiment accepté de faire cet ensemble de méditations guidées, enregistrées, parce que du coup, les gens voient que c'est vraiment à portée de main, que c'est pas un exercice intellectuel, mais c'est juste entrer dans le présent.
Et cesser l'agitation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle de l'agitation et du côté transitoire, en fait, de toutes nos jouissances, en fait.
Oui, Kierkegaard disait, si j'étais le médecin de la société occidentale et que j'avais une chose à dire, je dirais à notre société, découvrez le silence. C'est ce dont vous avez le plus besoin.
C'est vrai. Oui, c'est encore plus actuel aujourd'hui.
Oui, c'est encore plus actuel aujourd'hui.
Mais alors, effectivement, on voit que cette méditation, quelles que soient les formes, les noms qu'on lui donne et tout, a beaucoup à voir avec l'ouverture du cœur. C'est cette ouverture du cœur qui permet d'être sensible à la beauté, d'être dans l'amour. Donc, il y a un lien direct entre amour et méditation.
Alors moi, je crois que c'est décisif. Alors, j'aime beaucoup la tradition qui vient du bouddhisme tibétain, qui a travaillé très précisément cette question-là, et dans lequel il y a des pratiques d'ouverture du cœur qui se déploient spontanément de cette présence, de la présence, du désobstruement. Votre cœur est moins enfermé et vous êtes plus lié avec le monde. Et là, on découvre une expérience de l'amour tout autre que l'amour sentimental habituel auquel on l'identifie aujourd'hui en Occident. Et dans les CD, je finis par deux méditations guidées sur l'amour où on développe ça. Alors, pour nous, en Occident, c'est presque surprenant parce qu'on a l'impression soit on aime, soit on n'aime pas. Et on est complètement déconcerté avec l'idée qu'on peut apprivoiser le cœur comme on peut apprivoiser l'attention. Alors, Francisco Varela disait l'attention, c'est aussi un muscle. Il faut apprendre à travailler son attention. Et on voit chez les enfants aujourd'hui qui sont avec les téléphones portables et tout ça, et le zapping est tellement fort qu'il y a un déficit d'attention. Et la méditation peut aider beaucoup de gens à apprendre l'attention comme pleine présence. Hein, pas l'attention sans faire attention qui nous crispe, mais comme pleine présence. Et bien, sur l'ouverture du cœur, il y a deux éléments. Quand vous entrez dans la méditation ouverte de cette simplicité, le cœur s'ouvre, mais il y a aussi des pratiques tout à fait simples d'ouverture du cœur, d'essayer d'ouvrir son cœur en essayant de générer de l'amour, d'abord en pensant à quelqu'un qu'on aime, puis à des gens qu'on ne connaît pas forcément, et de voir comment ça se travaille.
D'ailleurs, dans le bouddhisme tibétain, la séance de méditation est bien souvent précédée du vœu de bodhisattva, dans laquelle la personne, le méditant, finalement évoque cette intention de venir en aide à tous les êtres souffrants.
Oui.
C'est ça le but ultime, finalement, recherche à travers cette pratique.
On pourrait dire, plutôt que le but ultime, on pourrait dire essayer de se souvenir que l'aspiration qui fait qu'on s'engage dans la pratique, c'est que le monde soit plus en paix.
Voilà, c'est la compassion.
Et donc, au lieu d'en faire juste un but, ça devient la qualité même de votre présence. Moi, j'aime bien dire qu'il faudrait faire la distinction entre deux choses. Un but qu'on doit réaliser, alors on fait un agenda comme on va faire, et une aspiration.
Oui, c'est une intention.
Voilà, une intention, une aspiration.
Oui, c'est plus juste que but.
Et du coup, on voit bien, mais nous, en Occident, on a du mal à distinguer, même dans notre vocabulaire en général, à distinguer les deux. Et je crois que si on fait cette distinction, ça devient très clair. Avoir l'aspiration que notre pratique aide à alléger la souffrance du monde, en faisant qu'on soit plus présent et qu'il y ait plus de bienveillance.
Oui, alors là aussi, c'est peut-être, ça mériterait peut-être un petit approfondissement, parce que ça paraît peut-être un peu naïf, en fait, de dire qu'on peut simplement, dans une méditation, par exemple, changer les choses telles qu'elles sont dans le monde. Que fait-on avec le mal? Que fait-on avec la violence quand on est assis sur son coussin et qu'on médite? Je veux dire, comment on entre en relation avec, finalement, cette réalité du mal qui est quand même plus englobante que la réalité du bien?
Oui, ben je crois que c'est... Mais c'est difficile de répondre en deux minutes à cette question très vaste. Mais je crois que déjà avoir l'aspiration pleine que notre pratique vise à cela... C'est déjà ne pas s'enfermer et essayer de garder ouvert cela. Et encore une fois, ça peut pas se mesurer, mais la pratique, moi je le dis souvent, la pratique, en tout cas comme je la transmets et comme je la pratique, ne vise pas à vivre dans un terrier, mais vivre à s'ouvrir à la souffrance du monde. Et je rentre d'un séminaire que j'ai enseigné juste avant-hier, et le séminaire portait sur une lecture de la poésie de Paul Celan et d'une méditation sur la Shoah. Et nous pratiquions la méditation en essayant de voir comment ça pouvait nous mettre en rapport à ce qu'il y a à faire pour entrer en rapport à cela. Je crois que c'est décisif. La méditation est d'abord une manière de répondre à la souffrance du monde. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, que la méditation ne se réduise pas à guérir et à mieux gérer le stress. Elle doit répondre à la racine de la souffrance de notre monde.
Mais j'ajouterais dans ce sens-là que de toute façon, si on veut changer le monde, on sait qu'il faut se changer soi-même. C'est-à-dire que l'amélioration du monde, de la violence qu'il y a dans le monde, passera par le fait qu'on aura réussi à éradiquer la violence à l'intérieur de nous. On ne peut pas améliorer le monde si chacun ne fait pas un travail sur lui-même d'élévation de conscience, d'ouverture du cœur, de travail sur ses propres émotions, parce que la violence, elle est toujours mimétique et on réagit toujours à la violence des autres. Donc plus il y aura d'individus pacifiés, apaisés, même déstressé, moins il y aura de violence dans le monde.
Et aussi, je dirais, un des enjeux aujourd'hui, c'est cesser de rêver les yeux ouverts. C'est cesser d'avoir des fausses solutions. Et on se rend compte à ce moment-là que ce qu'on reproche en général à la spiritualité, un grand nombre d'hommes politiques en sont empris. Dans l'idée de rêver les yeux ouverts sans se confronter pleinement à l'ampleur du mal. Et je dirais, la méditation, comme toute voie spirituelle, authentique, ne vise pas à nous faire rêver, mais à entrer dans l'ampleur de la douleur. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire.
Terminons cette émission des Racines du Ciel consacrée avec Fabrice Midal à la méditation par l'agenda culturel, qui va être un peu plus long, comme nous le faisons une fois par mois avec Marie Dalquier. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors, je voulais vous parler donc de trois livres très bien écrits qui évidemment parlent de la méditation. Le premier de Christophe André. Christophe André, on le connaît, il est venu pour parler des états d'âme aux racines du ciel. C'est un médecin psychiatre qui anime des groupes de méditation à Sainte-Anne. Alors, rien que ce petit livre qui s'appelle donc « Méditer jour après jour », c'est un petit livre de chevet. C'est vraiment un livre à avoir à côté de soi et à ouvrir de temps en temps. Alors, il a relevé un défi. Il a voulu nous faire comprendre que la méditation, c'était pas uniquement des mots, c'était aussi de l'expérience, et là en l'occurrence il a décidé de partir de tableaux. Donc en fait chaque petit chapitre est illustré par un tableau. Alors je dois vraiment rendre vraiment hommage à l'illustration, vraiment l'impression est très très bonne, ce qui fait qu'on rentre vraiment dans les images, on rentre vraiment dans les tableaux et on comprend ce qu'il veut nous dire. Alors c'est des tableaux du 15e à aujourd'hui. Je prends juste un exemple comme ça, par exemple pour le chapitre accepter ce qui est, il prend un exemple de la Vierge de l'Annonciation d'Antonello de Messine, et il dit voilà, on voit une Marie humaine saisie dans son cheminement psychologique plutôt qu'une Marie divine. Et puis chaque petit chapitre illustre aussi d'une petite leçon, alors une leçon très brève mais qui est particulièrement déculpabilisante à chaque fois. Un petit exemple comme ça, respirer, mieux vaut respirer que ruminer. Voilà. Donc c'est aussi accompagné d'un CD avec des petites méditations aussi lues de 5 minutes ou de 15 minutes par Christophe André. Un deuxième livre, un livre qui est écrit par L'Iphémis. Alors le premier, Christophe André, est aux éditions de l'Iconoclaste. Le livre de L'Iphémis qui s'appelle La pleine conscience est aux éditions Bellefond. Alors là, on part d'un scientifique américain, un psychologue et médecin, alors qui s'est plus attardé sur l'un des domaines de la méditation, mais qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux, c'est l'attention. L'attention. Alors il part d'une méthode scientifique où on a la capacité de notre cerveau à réguler des ondes électriques qu'on fabrique naturellement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a sorti une méthode et des exercices qu'on retrouve dans ce livre de manière très facile. Et alors moi je les ai testés. Et en particulier les exercices sur la douleur, ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est-à-dire que dans les heures qui ont suivi, bon j'ai un petit problème en ce moment avec mon matelas, où j'ai changé de matelas et j'ai des douleurs dorsales. Et je me suis dit, je vais tester. Et en fait, bon, l'idée, c'est justement d'accepter, d'accueillir cette douleur. Et ça a été, mais quand je dis immédiat, ça a été instantané. C'est-à-dire que cette douleur, en fait, qui me contractait, je l'ai tout d'un coup accueillie. Et j'ai vraiment senti des ondes positives, en fait, comme si je me nourrissais de cette douleur. Voilà. Et elle a complètement disparu.
C'est comme quand on lutte contre le froid. Si on accepte le froid, on n'a plus froid. Enfin, beaucoup moins.
Exactement. C'est tout à fait le même genre de sensation. Voilà. Donc, c'est aussi des méthodes contre le stress et l'anxiété. Vraiment
C'est génialement fait. Comme description de l'attention, j'ai beaucoup appris moi-même en le lisant.
Comment s'appelle le livre ?
La pleine conscience.
La pleine conscience, chez Bellefond.
Oui, chez Bellefond.
Et puis, alors là, pour quand même parler un petit peu de la spiritualité, et justement de la méditation et de la spiritualité, alors un livre qui se lit presque comme un conte, c'est Jack Kornfield, donc ça s'appelle Bouddha, mode d'emploi, et c'est aussi aux éditions Belfond. C'est un psychologue, un clinicien américain, alors c'est un très bon livre d'introduction au bouddhisme. C'est d'ailleurs un livre de référence aux États-Unis. Il a inspiré pas mal de psychothérapeutes occidentaux. En fait, c'est un livre qui va tracer le chemin entre l'Orient et l'Occident. Il va vraiment nous expliquer ce qu'il appelle d'ailleurs la psychologie bouddhiste. Il emploie vraiment ces mots pendant les 500 pages. Et puis, il va essayer de nous montrer l'écho dans la réflexion occidentale. Alors, moi, ce qui m'a énormément plu dans ce livre, c'est que c'est vraiment un livre qui se lit presque comme un conte. Voilà, à partir de cette, il prend ce rôle un peu d'homme guide, et à travers son cheminement personnel, ses crises d'angoisse, ses rencontres, eh ben il nous prend par la main, étape par étape, et il nous initie à la spiritualité au quotidien. Voilà, c'est un livre d'une immense douceur. Et je finis par le site de votre site, Fabrice Midal, alors sur lequel on retrouve toutes les informations qu'on a eues là sur l'école occidentale de la méditation. Donc c'est fabrice-midal.org. Alors c'est pas simple de s'y retrouver dans les sites sur la méditation. Hein. Quand vous mettez méditation dans Google, vous avez quand même beaucoup de sites plutôt mercantiles, commerciaux, religieux, même sectaires. Et c'est pas facile de s'en sortir. Et le vôtre apparaît pas. Justement parce qu'il est finalement sous toutes ces liens, cette abondance de liens plutôt commerciaux. Donc il faut bien retenir l'adresse, c'est fabrice-midal.org. Et alors moi ce que je trouve vraiment très bien chez vous, c'est que vous avez donc, je trouve ça assez généreux, c'est les méditations du mercredi, dans lesquelles en fait, ça se passe alors pour l'instant à Paris, hein, et effectivement c'est que pour les Parisiens et les gens de l'Île-de-France. Donc en fait c'est du côté de Paris. Chaque séance commence par une transmission de la pratique de la méditation. Alors c'est ouvert à tous les débutants, il n'y a pas d'engagement, c'est 5 euros pour 40 minutes de méditation suivie d'un enseignement. Là, le prochain, la mercredi qui vient tout de suite. Donc le 16 novembre, c'est comment intégrer la méditation dans sa vie au quotidien. C'est vraiment, une très belle manière de s'ouvrir à la méditation.
Alors merci Marie, je rappelle aussi Fabrice Midal que vous enseignez dans toute la France hein, et ailleurs d'ailleurs, vous faites des sessions de méditation, on peut venir pour plusieurs jours, j'imagine qu'on trouve sur votre site ces informations.
Tout à fait.
Et puis je rappelle que nous vous avons donc invité pour nous parler de la méditation à l'occasion de la sortie de ces deux CD de méditation guidée avec également un livret de 64 pages publié chez Audiolib. Merci infiniment.
Merci
et
à vous.
Vraiment, c'était une fois de plus un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Jacques Mazurel qui nous parlera de la pensée de Teilhard de Chardin pour aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8 heures. Bon dimanche à tous.